tous unis dans un lien d'amour, tous unis dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu, tous unis dans un lien d'amour, tous unis dans la même promesse, un amour qui grandit sans cesse, et nos cœurs s'élèvent de Dieu éternel, tous unis dans un lien d'amour.
Merci Jésus pour ce culte que nous pouvons célébrer. Nous pouvons célébrer ton saint nom et t'adorer en esprit, en vérité, autour de ta parole, en toute liberté. Je te remercie Seigneur pour ce deuxième culte que nous vivons ici dans le sud-ouest, toute la communauté réunie. Je te bénis pour cela mon Dieu et je te prie que nous soyons bien attentifs à tout ce qui va être dit et que ton nom soit ainsi glorifié par la mise en pratique, le sérieux de nos vies. Merci Jésus. Amen. Tout le monde va bien ce matin. On a bien tous bien dormi. C'était bien. On va lire, on va commencer par lire Jean chapitre 14, verset 2. 14, 2. C'est Jésus qui parle. Et on peut lire déjà le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. Vous connaissez le chemin ?
Oui.
Ouais, oui. Qu'est-ce qu'une demeure ? C'est quoi une demeure ? C'est un lieu où on habite, c'est un lieu où on s'abrite, c'est un lieu où on travaille, c'est un lieu où on vit. C'est un endroit, hein ? Notre corps, c'est déjà une demeure. On demeure dans nos corps, on est à l'intérieur de nos corps. Et notre corps, ben, il est complexe, c'est pas un truc simple, une boîte avec notre âme dedans, tout simplement. Je crois que on peut avoir plusieurs demeures dans un même bâtiment. Je crois que même en nous-mêmes. Hein. Je sais que dans la maison du Père, celle dont parle Jésus, eh bien, c'est l'univers nouveau qu'il crée déjà, parce qu'il ne cesse de créer, et où il nous prépare une place. C'est un univers avec différentes régions, et ces espaces, nous y vivrons. Suivant notre degré d'évolution. Quand je parle d'évolution, je ne parle pas d'évolution à cause de la réincarnation, mais je parle de notre évolution depuis que nous sommes nés. On évolue, hein, j'espère. Hein. On évolue. Je disais tout à l'heure à mon petit-fils, je lui posais une question, il me dit « je ne sais pas ». Je dis « c'est normal, à 7 ans, tu ne sais pas. Et quand tu auras 8 ans, tu sauras plus de choses. À 9 ans, tu sauras encore plus de choses. » Quelqu'un a rajouté « à 60 ans, on sait tout ». J'ai dit « non, à 60 ans, on ne sait pas encore tout ». Et nous recevrons donc une demeure, un logement correspondant donc aux qualités et aux vertus que nous aurons développées dans notre condition mortelle, c'est-à-dire ici-bas. Là, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on développe, n'est-ce pas, la personne que nous allons... Nous sommes en train de devenir quelque chose. On n'est pas encore arrivé au bout. Actuellement, Dieu a déjà une demeure dans notre univers. Et je voudrais vous faire une lecture dans le livre d'Abraham, au chapitre 3, verset 2 à... chapitre 3, pardon, verset 2, 3. Je trouve. Et je ne suis pas encore tout à fait au clair. Alors. J'aurais dû mettre une note où ça se trouve. Alors, le livre d'Abraham, c'est un livre qui se trouve dans le livre de Mormon. Et Et si vous ne savez pas pourquoi je lis dans le livre de Mormon, c'est parce que vous n'avez pas été écouté les 9 prédications qui s'appellent Pierre de Daniel. Je vous invite à les lire. Donc Abraham 3, 2, 3. Il est dit, « Je vis les étoiles, je vis qu'elles étaient très grandes et que l'une d'entre elles était tout près du trône de Dieu et il y en avait beaucoup de grandes qui en étaient proches. » Et le Seigneur me dit, « Ce sont celles qui gouvernent et le nom de la grande est Kolob, parce qu'elle est près de moi, car je suis le Seigneur ton Dieu. J'ai placé celle-là pour gouverner toutes celles qui appartiennent au même ordre que celle sur laquelle tu te tiens. » Kolob, c'est une grande étoile, et le temps pour Dieu est calculé selon le temps de Kolob. On lit ça un petit peu plus loin dans le même livre. C'est-à-dire, vous savez ce que la Bible nous dit, que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans pour nous. Hein? Et ici-bas, nous calculons un jour selon la durée de rotation de la Terre. Et Kolob a une rotation qui est différente. Elle tourne sur elle-même d'une façon différente. Et Dieu calcule tout d'après le temps de Kolob. C'est ce qui explique, par exemple, quand Dieu a dit à Adam... Le jour où tu mangeras du fruit défendu, tu mourras. Ben, il n'est pas mort le jour même, mais il est mort à l'âge de 930 ans. Pourquoi ? Parce qu'un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans, parce que Dieu n'avait pas encore donné à Adam la possibilité de calculer selon la façon terrestre, mais c'était selon la façon de Kolob. On va lire dans Abraham, toujours Abraham 5, 12, 13. Alors là, il nous est dit, 12, 13, « Et les dieux donnèrent cet ordre à l'homme. » Quand c'est écrit les dieux, c'est parce que c'est Elohim. « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car dans le temps où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Or, moi, Abraham, je vis que c'était selon le temps du Seigneur qui était selon le temps de Kolob, car les Elohim n'avaient pas encore désigné à Adam le calcul de son temps. Vous voyez ? Alors, vous voyez que, en fait, la Bible nous dit des choses, et puis après, ben, c'est par la foi qu'on les accepte, et c'est très bien. Et maintenant que l'Évangile est rétabli, que les deux bouts de bois d'Ézéchiel 37 sont rapprochés, eh bien, nous avons des précisions, vous comprenez ? Parce que cela se complète, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre évangile, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Tout cela pour dire que Dieu, dans sa création, a une maison et qu'il nous en prépare une, car là où il est, il veut que nous y soyons aussi, on l'a lu, on le connaît, on sait, et il va nous préparer une place, soit d'accord, ok, il va nous préparer une place, mais... Chacun de nous contribue, en fait, à préparer cette place en menant une vie conforme aux lois divines. Il faut arrêter de penser, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi, on fait ce qu'on veut. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu pourront rentrer là. Hein. Et faire la volonté de Dieu, c'est bien obéir à certaines lois. Non ? Ou alors je suis complètement idiot. Celui qui enfreint donc les lois de l'Église de Jésus-Christ, qui est son royaume sur terre, ne peut pas espérer une demeure vaste, riche, belle. Ça ne sera pas moche, parce que Dieu ne fait rien de moche. Mais il y a des degrés de gloire, ça je vous en ai déjà parlé. Autre est l'éclat des étoiles, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat du soleil. Ainsi en sera-t-il lors de la résurrection, on ne ressuscitera pas tous avec la même gloire. Alors, vous voyez, puisque Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place, ça signifie qu'il ne nous abandonne pas, puisque cette place sera à l'image de ce qu'il nous voit être et de ce qu'il nous voit faire. D'accord ? Il est tout le temps avec nous et il construit par rapport à ça, par rapport à ce qu'il nous voit être et par rapport à ce qu'il nous voit faire et être. Depuis la demeure où il est allé, il travaille donc avec nous, nous aidant à remplir notre mission, il envoie même ses anges pour cela, c'est le ministère d'ange, afin que, une fois cette mission accomplie, nous puissions rejoindre notre demeure céleste qui est dans la maison du Père. C'est un bâtiment dans lequel il y a plusieurs demeures. Hein, je prends cet exemple. C'est quand même une habitation, c'est une maison. C'est Jésus qui dit que c'est une maison. Alors, est-ce que c'est une image? Moi, je vous dis, Jésus dit une maison, c'est une maison. La maison du Père est donc dans un endroit, un univers. Et dans cette maison, il y a différentes demeures. Alors, les Juifs disent, ils ont des idées là-dessus. Ils appellent les demeures, ces demeures-là, les séphirotes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les séphirotes, ils croient qu'il y a 10 séphiras. Ça n'a rien à voir avec Sephora. Les séphiras, la demeure. Alors, par exemple, il y a la séphira qui s'appelle la demeure de la couronne. L'autre, c'est la sagesse. L'autre, c'est l'intelligence. L'autre, c'est la grâce. L'autre, c'est la force, la gloire, le fondement et la demeure du royaume. Dans chaque séphira se manifeste donc un aspect de la divinité, hein, sagesse, grâce, force, gloire, vous comprenez. Et il croit que dans chaque séphira demeure et travaille toute une hiérarchie angélique. Ça, c'est les Juifs qui croient ça. Et la région de l'espace qu'elle occupe est symbolisée par une planète. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des Juifs, ce sont des érudits, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont des écrits que nous n'avons pas, ils ont une loi et une tradition orale que nous n'avons pas, et il faut respecter, n'est-ce pas, les gens qui croient un peu différemment de nous. Voilà, tant qu'ils ne nous disent pas qu'il faut tuer, qu'il faut voler, qu'il faut mentir, qu'il faut tromper, qu'il faut faire des divisions, ça va. Et donc, je dis pourquoi pas. Et ils croient aussi que nous sommes créés à l'image de Dieu qui a créé l'univers avec ses 10 aspects divins. Et que nous avons donc, dans notre demeure actuelle, c'est-à-dire dans notre corps, 10 étages, si vous voulez. 10 étages. Nous avons à manifester les vertus qui nous habitent, celles que je vous ai décrites tout à l'heure, et nous avons tous un temps qui nous est donné pour être et pour faire ce à quoi nous avons été appelés avec ces 10 vertus. Nous avons un temps qui nous est donné. Il y en a qui ont très peu de temps, puis il y en a qui ont beaucoup plus de temps. Hein, ceux qui ont beaucoup plus de temps ont aussi beaucoup plus de temps de faire des bêtises. C'est pourquoi, lorsque Jésus a sauvé la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, c'est les plus vieux qui se sont éloignés les premiers parce qu'ils avaient fait plus de, ils avaient eu le temps de faire plus de bêtises. Mais nous avons le temps aussi de faire plus de progrès. Il ne faut pas voir seulement le côté mauvais, négatif de la chose. On a le temps de faire des progrès quand on a beaucoup de temps. Alors il est nécessaire que chacun de nous sachions à quoi nous avons été appelés. Vous vous rappelez, ça, c'était une des questions que je posais dans une de mes dernières prédications. À quoi avons-nous été appelés et est-ce que nous nous attachons à ce à quoi nous avons été appelés? Parce qu'il est vrai que Jésus est le sauveur du monde, mais beaucoup se trompent et beaucoup ont été trompés. On leur a enseigné que c'est par la grâce uniquement que nous sommes sauvés. Ils croient que le salut, c'est un don gratuit de notre sauveur. Alors que la vérité est que la résurrection et l'expiation de Jésus, de notre sauveur, l'expiation et la résurrection ont apporté le don gratuit du salut. C'est très différent. Il a été apporté pour tous ceux qui vivent à l'heure actuelle sur la terre et qui vivront sur la terre. Et je suis parfaitement en accord avec ceux qui disent que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver sans le Sauveur. Ça, c'est certain. Je suis aussi d'accord avec ceux qui disent que nous n'avons pas besoin des œuvres pour accepter le don gratuit du salut. Là, je suis d'accord aussi. Par contre, il est clair que le salut des uns ne sera pas semblable au salut des autres. La Bible dit que certains seront sauvés comme au travers du feu. Tout le monde ne sera pas sauvé de la même manière. Tout le monde ne sera pas sauvé comme au travers du feu. Et chacun, donc, chacun sera sauvé et recevra une récompense. Donc, c'est bien clair que le salut des uns ne ressemblera pas au salut des autres. Une raison. Récompense d'après quoi? La couleur de vos yeux? Non. D'après ce qu'il aura fait, d'après ce qu'il aura été sur cette terre, c'est bien clair. On va lire 1 Corinthiens 3, 8. 1 Corinthiens 3, 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est clair? C'est pas seulement maintenant, c'est pour après aussi. Chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Parce que ici-bas, on est ouvrier avec Dieu, rappelez-vous. On est ouvrier avec Dieu. Donc quand il nous dit qu'il est en train de nous construire une maison, il la construit avec nous. Nous la construisons avec lui. Nous sommes ouvriers avec Dieu. La demeure qu'il nous construit au ciel est son travail et nous y travaillons ici-bas avec lui par ce que nous sommes et ce que nous faisons. On va lire maintenant un autre texte dans le livre de Mormon, dans 2 Néphis 25-23. 2 Néphis 25-23. Car nous travaillons diligemment à écrire pour persuader nos enfants et aussi nos frères de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu, car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Vous voyez? Je relis encore. Car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire. Cela dit, nous sommes sauvés par la grâce et nos œuvres ne sont pas vaines. Dans Philippiens 2:12, il est dit, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Alors de grâce, arrêtez de dire « On est sauvé par la grâce, on peut faire ce qu'on veut. » C'est faux. Quelqu'un qui fait quelque chose, qui est contre l'ordre établi dans l'Église de Jésus-Christ, il ne faut pas qu'il s'attende, n'est-ce pas, à être félicité. Pas du tout. On doit travailler avec crainte et tremblement. On doit se dire, être sérieux avec ce qu'on fait, ce qu'on dit. Dans Matthieu 10, 22, il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas seulement celui qui croira, mais c'est celui qui persévérera. Qui persévérera de croire. Oui. Mais qui persévérera aussi à travailler avec crainte et tremblement. Hein? Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Seigneur, Seigneur. C'est bien joli, hein? Mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas les œuvres, ça? C'est ceux qui font les œuvres de mon Père qui pourront être sauvés, pas les autres. Je suis désolé, ils peuvent croire, ils peuvent dire Seigneur, Seigneur. Ils ne seront pas sauvés. C'est pourquoi ce texte dans Néphis me paraît très intéressant. Nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Jacques 2, 24 nous dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Bien sûr qu'on est justifié par la grâce, puisque Jésus nous a fait grâce, il nous a pardonné, mais maintenant... Il y a des œuvres à accomplir. Si nous n'accomplissons pas les œuvres, nous prouvons par là que nous ne bénéficions pas de la grâce parce que nous n'y croyons pas. Si on y croit, on s'y soumet à la loi de Dieu, à la loi de l'Église, à la loi du royaume. Il est un roi, c'est pas un bouffon. Vous voyez, les deux sont nécessaires. Le don gratuit et les œuvres sont nécessaires au salut. Et surtout, au degré de gloire auquel nous aurons droit ou pas. À quelle sorte de demeure nous aurons droit ou pas dans la maison du Père. Frères et sœurs, je crois que presque tout le monde recevra un certain niveau de récompense dans les cieux. C'est là que entrent en jeu nos œuvres. Et nous n'aurons pas tous le même corps céleste. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous le disais de mémoire, mais je peux vous donner les versets parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sur Internet et qui ne lisent jamais la Bible. 1 Corinthiens 15, 40-41, où il est dit très clairement, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ne ressusciteront pas tous avec le même éclat. Vous n'y croyez pas? Moi, ça m'est égal que vous n'y croyez pas. Hein. Si vous croyez simplement que le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, et que ça suffit, bon, ben, c'est bien. Hein. C'est bien, vous avez raison. Continuez comme ça. En tout cas, moi, je suis dégagé de vous parce que je vous aurais dit la vérité. Je vous aurais dit la vérité. Et puis, Paul n'a-t-il pas clairement enseigné que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera? Quand? Et qui dit, ne vous lassez pas de faire le bien, parce que le moment venu, nous récolterons. Galates 6, 7, 9. Alors, bien sûr, on peut dire, oui, on récoltera ici-bas. Si tu sèmes ta dîme, tu vas récolter. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi que nous devons nous amasser un trésor dans le ciel, oui ou non? Oui. Comment est-ce que vous attrapez, comment est-ce que vous allez vous mettre un trésor dans le ciel si c'est en faisant rien? C'est un non-sens, c'est de la religion, c'est de l'imbécilité. Jésus n'a-t-il pas dit que nous pouvons nous amasser des trésors dans le ciel? Oui ou non? Est-ce qu'il l'a dit ou est-ce qu'il l'a pas dit? Il l'a dit, oui, il l'a dit. Alors là, on ne peut pas s'amasser des trésors dans le ciel en faisant rien. Donc c'est en faisant quelque chose. Donc il y a bien une œuvre à faire pour s'amasser des trésors dans le ciel. Alors il y en a qui arriveront avec 2 balles comme trésor, et puis d'autres qui arriveront avec plus. Hein? Ça dépendra de tout ce qu'ils auront fait sur cette terre. Alors écoutez-moi bien, je crois que nous récolterons ce qu'on aura semé, que nous serons sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais que Dieu nous rendra à chacun selon nos œuvres. On est sauvé par la grâce, on n'est pas sauvé par la foi, on est sauvé par la grâce de Dieu, mais par le moyen de la foi. Et la foi sans les œuvres, elle est...
Ah.
Alors réfléchissez un peu. Il faut réfléchir dans la vie, il ne faut pas simplement... Ah, le pasteur a dit on est sauvé par la grâce, et puis ça suffit, puis Michel Janton vient nous dire qu'on est sauvé par les œuvres, et il a tort. Je n'ai jamais dit qu'on est sauvé par les œuvres, je dis que les deux sont nécessaires. Romains 2, 6, 11. Romains 2, 6, 11. Alors, c'est vraiment écrit petit, hein. Je lis déjà verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Voyez ? Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles, rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, ils font ce qu'ils n'ont pas à faire. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif, premièrement, bien fait. Ben oui, c'est eux qui ont été choisis en premier, c'est eux qui ont été privilégiés. Alors, si eux, ils se permettent de faire n'importe quoi, ben, je trouve que c'est très. Il a bien raison. Tribulation et angoisse sur toute âme de juif, premièrement, là, boum. Vous voyez, il faut aimer les juifs, oui, d'accord, mais Dieu les aime aussi, hein. Mais t'as vu, angoisse et tribulation sur eux si ils sont rebelles, si. Ils obéissent à l'injustice, s'ils ne sont pas... Voilà. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement. Bien fait, c'est très bien, c'est normal. Puis, pour le grec, et puis les français. Alors, bof, le français. Ah, vous voyez, si on prend la Bible à la lettre, il n'y en a que pour les juifs et les grecs. Hein. Les autres, bon, ça n'existe pas. Hein. Car devant Dieu, il n'y a point le favoritisme. Hein, les Grecs, ça représente, à l'époque, ça représentait la culture, les nations, quoi. Alors, bien sûr que Dieu a quelque chose pour les pauvres Français aussi. Dit autrement, nous obtiendrons un niveau, une demeure, égal à ce que nous serons devenus lorsque nous étions sur terre, sur la base de ce que nous aurons fait, c'est-à-dire de nos actes, mais aussi de nos pensées, de nos intentions. De nos intentions. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Alors écoutez bien ça. Je raconte une petite histoire. Il y avait un monsieur qui avait un fils. Et il lui dit, si tu travailles dur et si tu économises ton argent, tu vas pouvoir te le payer toi-même, ton ordinateur, plutôt que d'attendre que ce soit moi qui te l'offre. Maintenant, tu as l'âge de travailler, va nettoyer les voitures, je ne sais pas, il y a des tas de petites choses à faire intéressantes. Pendant tes vacances, alors son fils, il travaille dur, il gagne, il économise son argent, et au moment d'acheter l'ordinateur, ben, il apprend que l'ordinateur coûte 325 euros, mais qu'il n'a que 245 euros. Ah, c'est ballot. Alors, il est déçu, mais son père lui dit, mon fils, j'ai vu ton travail, j'ai vu ta persévérance, ne t'inquiète pas, je vais payer la différence pour toi. Dieu est en train de parfaire nos œuvres. Vous comprenez? Quand il voit que nous avons fait tout ce que nous avons pu, et puis que bon, on n'est quand même pas arrivé au niveau top, ben, il va mettre la différence. Vous voyez, par la grâce du Père, ce fils, il a obtenu son ordinateur, ainsi qu'en plus, il a obtenu la maturité et l'expérience, parce qu'en travaillant, on obtient toutes ces choses-là, la maturité et l'expérience. Dans le monde du travail, ce n'est plus les bisounours. Hein. On va lire un autre texte dans le livre de Mormon. Je vous avais averti qu'on allait pas mal étudier dans le livre de Mormon. Alors, c'est dans le livre de Moroni, Moroni chapitre 10, verset 32 à 33. Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété, et si vous refusez toute impiété, et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toute votre force, alors sa grâce vous suffit. Oh là là. Ah, vous voyez que c'est la même chose que dans la Bible, mais dit autrement, c'est beaucoup plus... Ouh, je vous relis. Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété. Est-ce que c'est anti-biblique? Non. Et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toute votre force, est-ce que c'est pas ce que la Bible nous dit de faire? Alors, sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce, vous soyez parfaits dans le Christ. Et si... par la grâce de Dieu, vous êtes parfait dans le Christ, vous ne pouvez en aucune façon nier le pouvoir de Dieu. Et en outre, si par la grâce de Dieu, vous êtes parfait dans le Christ et ne niez pas son pouvoir, alors vous êtes sanctifié dans le Christ par la grâce de Dieu, grâce à l'effusion du sang de Christ qui est dans l'alliance du Père pour le pardon de vos péchés, afin que vous deveniez saints et sans tache. Méditez ça, c'est très profond. Vous voyez, pour que la grâce de Dieu soit effective, nous devons d'abord nous refuser toute impiété et aimer Dieu. Parce qu'en fait, c'est ce que la Bible nous le dit. Quand on fait ça, on montre notre amour pour Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Jean 14, 15. Par exemple, la Sainte Cène, c'est une ordonnance, c'est un commandement. Dire que c'est qu'un symbole et qu'il n'y en a pas besoin, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Comment vous pouvez suivre des hérétiques comme ça? Si vous gardez mes commandements, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous réunissez. Dire c'est inutile, c'est un symbole, il n'y a pas besoin, c'est une hérésie. Comment se fait-il qu'il y a des gens suffisamment bêtes pour écouter des bêtises pareilles? Et on en connaît, hein. Les frères et sœurs, il ne suffit pas d'agir superficiellement. Les commandements, les ordonnances et les alliances de l'Évangile, c'est pas une liste de dépôts à faire sur un compte céleste, pas du tout. L'Évangile de Jésus-Christ rétabli, c'est un plan qui nous montre comment devenir ce que notre Père céleste veut que nous devenions. C'est un plan. Parce que si ce n'est pas un plan, si c'est simplement une liste, ah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour être sauvé, mais c'est comme si tu dis à ton gamin, touche pas ça, mais vous ne lui expliquez pas pourquoi. Ce n'est pas de l'éducation. Et Dieu, il veut nous éduquer, il est notre père, il est un père normal, pas comme ces pères dégénérés qui s'en foutent de leur enfant et qui les laissent faire ce qu'ils veulent. Regarder des trucs jusqu'à 2-3 heures du matin là, sur l'ordinateur, sans aucun contrôle, les laisser faire ce qu'ils veulent. Et surtout, il ne faut pas les brimer, n'est-ce pas? Il ne faut pas les obliger à venir au culte pour écouter la sainte parole de Dieu. Non, non, non. Restez bien tranquille à la maison, hein, pendant que nous, on va louer le Seigneur. Mais c'est... Comment est-ce qu'on peut suivre des prophètes pareils? C'est des hérétiques. L'évangile de Jésus-Christ rétabli, c'est un plan qui nous montre comment devenir ce que notre Père Céleste désire que nous devenions. Et je suis certain que ça va sembler étrange à bien des chrétiens quand ils vont m'entendre dire ces choses, mais tant pis, tant pis. Dieu, il se rappelle toujours, Dieu a tant aimé le monde que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il se base là-dessus, voilà, et ça suffit. Mais ça, ce n'est pas toute la Bible. Si ça suffisait, pourquoi tout le reste? Cela signifie qu'à travers Jésus-Christ, toute l'espèce humaine peut être sauvée en croyant et en obéissant donc aux lois et aux ordonnances de Jésus-Christ. Quand on croit en Jésus-Christ, on obéit à Jésus-Christ. Oh, mais dans Jean 3,16, il est question que de croire. Oui, mais il est évident que celui qui croit en Jésus-Christ, il obéit à Jésus-Christ, il se soumet à la loi de son Église. C'est tout. Maintenant, si la loi de votre Église n'est pas biblique, quittez-la. Ne vous incrustez pas dedans. Quittez-la. Et trouvez-vous l'Église où il y a véritablement la loi de Jésus-Christ dedans. Et puis, vivez ces choses-là. Donc voilà, il y a bel et bien plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La foi juste implique que nous persévérions jusqu'à la fin. La foi, c'est la foi sans les œuvres, c'est mort. Donc, les actions justes impliquent que ce n'est pas juste une bonne action qu'on fait de temps en temps, de donner sa dîme une fois par mois, et puis d'aider une grand-mère à traverser la route de temps en temps, quand ça nous prend. Non, 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 non. C'est persévérer dans tous les commandements, dans ce qui est juste, dans la foi. Se convertir, ce n'est pas une expérience unique. Beaucoup de gens pensent, voilà, je me suis converti. Alors moi, je dis, je sais quand je me suis converti, très, très clairement. Très, très clairement, c'était à 21h45, le 1er juin 1968. Ça, c'était une expérience, mais se convertir n'est pas une expérience unique. Quand on est né de nouveau, après, on grandit. Ou pas. C'est ça. Une vie de disciple, c'est un entretien spirituel au quotidien. Des œuvres, un entretien de développement personnel, se développer socialement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. Une vie de disciple implique également de surmonter les épreuves, de vivre l'Église telle que Jésus l'a révélée. Et le but est que nous arrivions à atteindre la stature parfaite de Christ. Est-ce que ça n'est pas écrit? Et comment est-ce qu'on atteint la stature parfaite de Jésus-Christ? En écoutant ce que nous disent les cinq ministères et en ne se bornant pas à écouter, mais en mettant en pratique. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Michel, tu nous ramènes sous la loi. Bon, ben restez sous votre grâce, on verra à la fin. Le but, c'est que nous arrivions à atteindre la stature parfaite de Christ, son caractère, son amour parfait, sa parfaite miséricorde, sa parfaite vérité. Voilà donc, mes frères et sœurs, voilà ce que Jésus-Christ veut dans son Église qui est rétablie. Parce que dans toutes ces églises où je suis allé, c'est du tout et n'importe quoi. On entend des choses magnifiques, mais on entend aussi des âneries, des trucs invraisemblables. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu dans ces choses-là. C'est pas, je ne critique pas. Je dis simplement ce que j'ai vu et ce que je ne veux pas vivre et ce que je ne veux pas voir dans l'église dont je suis le pasteur. J'ai le droit, non? Non, si vous n'aimez pas, ben vous allez ailleurs. Mais c'est vous qui partez, c'est pas moi. Parce qu'une fois que cela sera, une fois qu'il y aura un petit troupeau qui vivra véritablement le message de Jésus-Christ rétabli dans une église véritablement rétablie, même si c'est qu'un petit nombre de personnes qui le vit, même, parce que tout commence par une semence toujours, même si c'est qu'un tout petit nombre, même si c'est comme une semence petite, comparée aux milliards de gens qui gesticulent sur la terre, eh bien, il reviendra pour établir son règne de 1000 ans. Mais il faut d'abord que ce rétablissement ait lieu. Alors je vous en supplie, mes frères et sœurs, soyez de ceux qui choisissent de marcher avec Jésus-Christ par la foi dans l'obéissance à son ordre établi. Il faut qu'on soit de ceux-là. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres sur cette terre qui cherchent à comprendre, qui cherchent à savoir, qui veulent le mieux. Même s'ils n'atteignent pas, au moins ils cherchent, alors Dieu rajoutera pour qu'ils aient leur ordinateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais au moins soyez de ceux qui sont de bonne volonté. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Paix aux hommes de bonne volonté, c'est-à-dire qui veulent le bien, qui veulent le meilleur, qui veulent le plus près de la vérité, et non pas, non, la Sainte-Seine, c'est plus... C'est quoi ce cirque? Ça, c'est vraiment la dernière truc que j'ai entendu cette semaine. Ça me demande de penser qu'il y a des gens qui pensent comme ça maintenant. C'est invraisemblable. Mes frères et sœurs, veillez, parce que le diable rôde, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Et c'est sûr qu'il ne va pas dévorer des gens qui sont balèzes spirituellement, c'est-à-dire qui mettent en pratique ce qui est écrit. Pas qui s'imaginent être forts spirituellement parce qu'ils parlent en langue ou parce qu'ils ont des voix. Les schizophrènes aussi, ils entendent des voix. Ce n'est pas un signe, ça. C'est comme le parler en langue, ce n'est pas un signe que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Les démons parlent en langue aussi. Vous allez dans les hôpitaux psychiatriques, il y en a quelques-uns qui vont bientôt y aller, là, bientôt. Ils vont voir, ça parle en langue dans les hôpitaux psychiatriques. Ce n'est pas le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est qu'on est témoin. Et être témoin, ce n'est pas aller au coin des rues en chantant des cantiques ou en distribuant des tracts. Être témoin, c'est être conforme à l'image de ce qui va arriver, c'est-à-dire de Jésus. Une maison témoin, c'est une maison qu'on visite dans le but de se rendre compte de ce que c'est qu'une maison, afin de pouvoir l'obtenir. Eh bien, un témoin, c'est ça. Vous devez être conforme à l'image de Christ. D'accord? Et le mot témoin, il a la même racine que martyr. C'est-à-dire qu'un témoin, c'est sûr qu'il n'est pas compris. Un témoin, c'est sûr qu'il n'est pas aimé. Un témoin, c'est sûr qu'il est critiqué, qu'il est rejeté par les gens de ce monde. Et surtout par les religieux, parce que les religieux, c'est la pire race qui existe dans ce monde. C'est une horreur. Seigneur, veuille nous garder et nous protéger des religieux. Merci Jésus de bénir ces paroles que j'ai dites ce matin, qu'elles permettent à quelques-uns de se reprendre et à vivre conformément aux bonnes lois qui sont dans ton Église, et aux bonnes ordonnances, aux bonnes choses que tu as instituées. Que ton nom soit béni et glorifié. Et merci Seigneur de ce qu'il y aura toujours quelques personnes qui viennent écouter sur Révélation Bible et qui prendront ces choses à cœur. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen.
Amen.
Amen. À bientôt.